Bien. Bonsoir. Ok, alors, on a lancé un thème il y a 3 semaines. Alors, tout d'abord une chose. Il y a plusieurs personnes m'ont demandé de relancer une étude que j'avais faite à la Yeshiva pendant plusieurs années. Voilà. Vous étiez avec nous quand on avait fait du texte, on avait fait Megillat Ruth, Megillat Esther, Livre de Yonah. Alors des participants qui étaient à cette étude, Sophie Klinger, Mathias et d'autres, me disent « Est-ce qu'on peut reprendre des études sur texte ?» Suivi. Alors, bon, plusieurs m'ont demandé. Je me suis dit, peut-être on pourrait faire ça le jeudi soir. Là, vous avez cours avec Niro, c'est ça?
Oui.
Alors, bon. Comment? Bon, enfin, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était bien. Alors, je me suis dit, peut-être... on pourrait faire ça le jeudi soir dans le livre de Shmuel, le livre de Samuel. Voilà, avec le commentaire de Rashi qui est extraordinaire. C'est des thématiques extrêmement actuelles. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Bon, je vous lance. Hein, ça pourrait éventuellement se faire donc le jeudi soir, donc ici, à la place des thèmes, ce serait un texte suivi. Mais ça touche le livre de Shmuel, c'est grosso modo, moi j'explique comme ça, il y a la Torah, et le livre de Shmuel, c'est comment la Torah, elle se concrétise dans la vie. C'est-à-dire que le roi David, le roi Shaoul et le roi David, c'est, ils ont vécu ce que la Torah demande. Et on voit comment ça se passe. C'est les TP de la Torah, quoi. Et c'est donc les thématiques sont vraiment des thématiques de la vie, en particulier évidemment la royauté, le pouvoir, mais pas seulement, tout ce qui tourne autour de la vie. J'adore le livre de Shmuel. Voilà, bon, c'est une idée. Donc c'est possible que vous verriez un inconvénient?
Non.
Non? Hein? Ah oui, je sais que mardi dernier.
Concentré, c'était très concentré, parce qu'on est parti fatigué. Hein. On a suivi quand on se concentrait vraiment. Mais on s'est demandé, c'est mieux après. Est-ce que tu as compris?
Ah oui, oui. Alors, moi j'ai enregistré, ma femme elle a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé là?
Ah d'accord. Ah, d'accord. C'est vrai?
Oui, elle m'a dit, t'as un problème, quoi.
C'était difficile. En même temps, il y avait beaucoup de choses. On apprenait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'éléments.
Mais le point... Bon, enfin, c'est un peu technique. En tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être donc on fera sur le livre de Shmuel. Alors maintenant, on a lancé une thématique il y a 3 semaines. J'appellerai cette thématique... C'est aujourd'hui, on parle beaucoup de... Enfin, on voit... une émergence du fait religieux qui est... On le voit dans le monde arabe. Alors, notre ami Guy Harari a dit il y a 3 semaines qu'il n'y a aucune émergence, ça a toujours été comme ça. Mais seulement, c'était persécuté. Mais qu'il n'y a pas d'émergence. Bon, moi, je ne sais pas... Lui, il a grandi en Égypte. Il a plus de connaissances que moi sur le terrain. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a, dans l'islam étant en expansion, voilà. Alors, comment? La question que je pose, comment la Torah présente notre rapport à Dieu, comment il est présenté, comment il est, quelle est la spécificité de notre rapport à la transcendance, à Kadoshbourg. Alors, bon, j'ai réfléchi un peu, j'ai médité à cette question. On avait vu il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, un passage dans le livre de Bereshit sur le déluge. Et on va un petit peu avancer à partir d'un texte. Alors, je sais, plusieurs d'entre vous, on a étudié ce texte déjà. C'est un classique que je rapporte souvent. Mais à force de le prendre, il y a de nouveaux aspects qui se mettent à jour, toujours. C'est en le reprenant, en prenant, reprenant, de nouveaux aspects éclosent comme ça. Alors, je vous propose de voir ce passage. Vous allez dire, ah, on connaît le fameux passage sur Nabuzradan. C'est bon ? On le connaît, Nabuzradan ? Comment ? Oui. Hein? Alors, on va voir ça. Je passe des textes.
S'il y a plus, je pense que c'est...
Non. Voilà. Je veux dire que...
Vous étiez à l'étude où on avait fait sur la
deux
semaines.
Il y a 2 semaines. Non, oui, j'étais.
Il allait arriver.
On y arrivait.
On y arrive. Voilà. Bien. Alors. Bon, c'est vrai, c'est un passage un peu spécial. Mais bon, on va essayer de, d'un côté spectaculaire, mais on va essayer de rentrer dedans. Donc ça commence en haut, hein, c'est dans Traité Gittin, Dafnun Zayin Amoud Bet. Amar Rabbi Chiya bar Rabbi na Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc Rabbi Chiya bar Rabbi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc c'est un passage. C'est un passage que, au milieu du traité Gittin, il y a plusieurs pages sur la destruction du temple, du premier temple, du second temple. C'est des passages que l'on dit traditionnellement le jour du 9 Av. Comme le 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, mais néanmoins, certains passages qui ont trait au deuil ou à la destruction du temple, on a le droit de les lire, de les étudier. Donc ce passage du milieu du traité Gittin, souvent on le prend le jour du 9 Av. Amar Rabbi Chiya bar Rabbi, donc c'est en haut. Il dit Rabbi Chiya bar Rabbi au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Sarmi Zaken Echad Manche Yerushalayim. Il y a un vieux des gens de Jérusalem qui m'a raconté. Donc Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit, il y a une personne âgée de Jérusalem m'a raconté. Bebikazo Arag Nabuzradan Rav Tabachim Mataim Vachat Esre Ribo. Vous voyez, monsieur, dans cette vallée, Nabuzradan, le chef boucher, donc c'était l'homme de main de Nabucodonosor, a tué 2 millions Mataim Vachatesre, 2 110 000 personnes. Voilà. 2 110 000 personnes dans cette vallée, il a tué 2 110 000. Ubeyerushalayim arag tishim varba ribo alevenachat. Et à Jérusalem, il a tué 940 000 personnes sur une même pierre. Donc 940 000 personnes sur une même pierre. Shalar Damam Vedaga Bedamo Shed Zacharia. Jusqu'à ce que le flot de sang a coulé, jusqu'il touche le sang du prophète Zacharie. Shenemar, pour accomplir la prophétie de Hoshéa qui dit Vedamim Bedamim Nagou. C'est-à-dire, il y a le prophète Hoshéa a prophétisé que une fois arrivera que du sang touche du sang. Qu'un flot de sang touche un autre flot de sang. Alors c'est quoi ce flot de sang et arriver à toucher le sang du prophète Zacharie? De quoi s'agit-il? Ashkaché. Alors, là, donc on est, ce passage a été écrit, ce passage a été rédigé dans le Talmud, je ne sais pas, il y a 1800 ans. Hein. Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est avant la rédaction de la Mishnah. Donc, ça fait 1800 ans. Ashkaché, les damés des Zacharia d'Avek Amartar, Vesalik. Donc, Nabucodonosor, on dit que Nabucodonosor a détruit le premier temple. En vérité, Nabucodonosor n'est jamais arrivé à Jérusalem. C'est son homme de main, Nabuzradan, c'est lui l'exécutant. L'exécutant de Nabucodonosor, c'était Nabuzradan. Donc, il a été mandaté pour conquérir Jérusalem. Ashkaché les damés des Zacharia d'Ave Kamirta Vesalik. Il a rencontré, donc il était aux confins de Jérusalem, et il a vu le sang de Zacharia qui bouillait et qui continuait de bouillir. Amar Mayai. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, au riverain. Il dit, au riverain, c'est quoi ce sang qui boue? Amar Mayai. Amroulé. Dam Zevachim d'Ishtafour. C'est du sang de sacrifice qui a été versé. Voilà pourquoi. Parce que donc c'est à Jérusalem, il y avait le temple de Jérusalem, et on n'a pas le droit de faire, quand il y a le temple de Jérusalem, on n'a pas le droit de faire des sacrifices hors du temple de Jérusalem. Donc les paysans ont dit, monsieur le général, il y a quelqu'un, il a fait un sacrifice là, à l'extérieur de Jérusalem, et le sang du sacrifice, il boue, ça boue. Le sang, il boue. Bleu, 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 bleu. Voilà. Dam Zevachim d'Eshtafour. Aïté Damé Veloïdmou. Il a dit, amenez un sacrifice, faites le sacrifice ici, je vais voir. Aïté Damé, ils ont amené du sang de sacrifice. Veloïdmou, ça ne ressemblait pas. Amaléou, il leur a dit. I Amritouli Moutav. Vilav Masrikan Ali Bisraï Roubé Misraké de Parzelé. Il leur dit, si vous me dites la vérité, c'est bien. Sinon, je vous déchire la chair avec des peignes en fer. Non, mais c'était pas rigolo, quoi. Hein. On rigole pas avec Nabuzradan, hein. C'est vilo. Et sinon, je vous déchire la chair avec des peignes en fer. Amrele, alors, il leur a dit, les gens, les paysans, là, ils ont dit, Amrele, Ma'en et Malach, qu'est-ce qu'on peut vous dire, monsieur? Ma'en et Malach, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ne vaya aveban, nous avions un prophète, d'ave, ne via aveban, il y avait un prophète chez nous, d'avait Kamouch Arlan Bemine d'Ishmaïa qui nous faisait des remontrances avec des paroles de Dieu. Kaminan il avait Vikatitnalde. On s'est levé sur lui, on l'a tué. Il y avait un prophète, qui nous faisait des remontrances avec des paroles de Dieu, on l'a pas supporté, on l'a tué. Vea kamashanin de lo ka nahar damé. Ça fait plein d'années que son sang ne se calme pas. Donc, c'est-à-dire, c'est une injustice criarde. Cette plaie est toujours vive. Voilà. Cette plaie qu'on a pu faire est toujours vive. Amar Léou, il leur a dit, Anna me faille s'en aller. Moi, je vais le calmer. Je vais calmer. Aïté Sanedré Gedola, Sanedré Ktana, Katan il avait Vélonar. Il a amené le grand tribunal rabbinique, le petit tribunal rabbinique, Katan il avait, et il les a tués à côté de ce sang. Les tribunaux rabbiniques, grands et petits, ils ont massacré. Oui, c'est-à-dire qu'il y a il y a un traité Sanhedrin. Le grand tribunal rabbinique, c'est 71 juges. Et petit tribunal rabbinique, petit Sanhedrin, c'est 23 juges.
Ils s'occupaient des mêmes affaires ?
Non, ils ont. C'est grand tribunal d'instance, grande instance, etc. Voilà. Donc il a amené les grands tribunaux rabbiniques. Les petits tribunaux rabbiniques, Katal il avait, et il les a massacrés. Vélonar, et le sang s'est pas calmé. Alors, regardez, j'essaie malgré tout de mettre un certain relief au texte que nous sommes en train de voir. Regardez par exemple, imaginez. Ce texte, tout
talmudiste connaît ce texte.
Tout talmudiste connaît ce texte, même pas talmudiste, tout Bahour Yeshiva connaît ce texte. C'est pas un texte. Tout le monde connaît ça. Enfin, quelqu'un qui étudie connaît ce texte. Imaginez. Les milliers et les milliers de gens de Talmudistes qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, qui connaissaient ce texte par cœur. C'est spécial quand même. Là, ça veut dire, là, les sages du Talmud sont en train de nous... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ils sont en train de mettre en exergue le summum des persécutions. Qu'est-ce qui se passe dans ces persécutions ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Vélonar. Bahurim ou Betulot, Katal il avait. Les jeunes hommes et les jeunes filles vierges, il les a massacrés. Vélonar, le sang s'est pas calmé. A été Tinokot chez Bet Rabban, Katal il avait Vélonar. Il a amené les enfants qui étudient la Torah, il les a massacrés, et le sang s'est pas arrêté. Alors, ce boucher, puisque c'est le boucher de Nabucodonosor, le boucher de Nabucodonosor, Nabuzradan, Amarlo, il a dit. Zacharia, Zacharia, Tovim Shebaem Ibadetim, les meilleurs d'entre eux, je les ai détruits. Nichala, Davdinu, les Roulous. Zacharia, Zacharia, les meilleurs d'entre eux, je les ai détruits. Est-ce qu'il faudrait que je les détruise tous? Kede Amar Leachi, Nach. Quand il a dit ces mots, le sang s'est arrêté. Be'aishata irer tshuva bedate. À cet instant, il a eu un éveil de retour de teshuva dans sa pensée. Regardez, c'est écrit bedate, pas des belibé, pas dans son cœur, c'est écrit dans sa pensée. Il a eu une pensée de retour dans sa pensée. Amar, il s'est dit, Umay ma nefesh achat, car si pour une âme qui a été tuée injustement, il faut tellement pour venger cette injustice. Aou gavra de katal kol anenishmata lachat kama vekama. Cet homme qui a tué toutes ses âmes, c'est-à-dire il parle de lui-même. Moi qui ai tué toutes ces âmes, quel sera mon châtiment? Arak, Azal, Shadash, Tab, Pritata, Bébete, Vegayer. Il a fui, il est allé, il a écrit un contrat où il réglait ses affaires courantes, Vegayer, il s'est converti. Il est devenu juif. Tana, un enseignement nous dit, Naman Gertoshav Ava. Bon, Naman, c'était ce qu'on appelle un Gertoshav, mais laissons ça de côté. Nabuzradan Gertzedekaya. Nabuzradan, c'est l'exemple type du converti authentique. Et le Talmud continue. Mais Bnei Banav chez Laman Lamdou Torah Bnei Brak. Des petits enfants de Haman ont enseigné la Torah Bnei Brak. Haman, vous savez qui c'est Haman? Ouais, celui qui a fait le décret de persécution à l'époque d'Esther. Le Talmud dit, il a des petits enfants qui se sont convertis. Et pas seulement qui se sont convertis, ils m'ont été des maîtres de Torah. Mais Bnebanav, chez Sisra, Lamdou, Tinokot, Birushalayim, des descendants de Sisra ont enseigné aux enfants la Torah à Jérusalem. Qui c'est Sisra? Nous.
En général.
De qui, de quoi? Quelle époque?
Juges.
Oui, des juges. C'est lui qui a fait la guerre à l'époque de Déborah.
Tué par Déborah.
Non, il a été tué par Yaël.
Il
a été tué par Yaël. Non. Donc, Sisra était le général araméen qui a fait la guerre au peuple juif, et c'est Déborah qui a fait la guerre contre Sisra. Donc, descendants de Sisra ont enseigné la Torah aux enfants à Jérusalem. Mais Bnei Banav shel Sanhériv, Lamdou Torah Berabim, des descendants de Sanhériv ont enseigné la Torah à tout le peuple juif. Qui c'est Sanhériv? Comment? Empereur assyrien. Et qu'est-ce qu'il a fait comme haut fait?
C'est là que le royaume d'Israël a disparu.
C'est ça. C'est lui qui a, qu'on dit les 10 tribus perdues. C'est Sanhérib qui a exilé les 10 tribus. Et ensuite, il a fait la guerre contre Jérusalem, et là, il l'a perdu. Donc il a exilé tout le royaume, il a détruit tout le royaume d'Israël. Ensuite, il s'est attaqué au royaume de Juda. Là-dessus, il a été vaincu. Mais c'était, il y a 10/12 du peuple juif qui a disparu à cause de Sanhérib. Donc, c'est pas, comme qui dirait, c'est pas un enfant de cœur. Ouais, là, ce que je veux dire. Et il a des descendants qui ont été des maîtres de tout le peuple juif. Et la Gemara dit, Maninou, qui sont-ils? Shamaya Vavtalion. Shamaya Vavtalion, les maîtres de Hillel. Voilà. Toute la Torah a été transmise par Shamaya Vavtalion. Alors regardez. Là, premier jet. Est-ce que vous avez vu, il y a une émission qui est passée il y a 6 mois, un truc comme ça, à la télé. Tout le monde a eu envie de regarder cette émission. Peut-être un peu plus que 6 mois, je ne sais pas. Une émission sur des descendants de nazis qui soit se sont convertis, soit sont proches du judaïsme. Vous avez vu ça?
Ouais. C'est la suite d'un film. La liste de Schindler.
Non, aucun arabe.
C'était pas vraiment vrai.
Bon, c'est peut-être à la télé, moi j'ai pas vu. On m'a dit qu'il y avait ce film. Bon, c'est un documentaire. Bon, je l'ai regardé. Je ne sais pas si vous avez regardé. Bon, c'était pas très intéressant. En tout cas, c'est moins intéressant que ce texte. Parce que ce texte-là, il fait un lien entre des gens qui se sont attaqués au peuple juif, mais pas simplement qui ont craché sur un petit juif de l'école juive dans le métro, qui ont déchaîné ciel et terre pour déraciner le peuple juif. C'est pas simplement ils aimaient pas, c'est pas Dieu donné quoi. Comment ? C'est plus que des assassins. C'est un assassin, il prend une mitraillette, il tue au maximum 80 personnes. Mais là, ça, c'est des gens qui se sont investis pour rayer le peuple juif. Et le Talmud nous dit que le premier, enfin, l'archétype de celui-là, ça a été le boucher de Jérusalem, l'homme de main de Nabucodonosor. Et le Talmud nous dit, il s'est converti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est ? Et ils mettent Tana, il y a une Boraita qui dit, c'est authentifie Ger Tzedek. Ça c'est pas parce que dans le documentaire. Bon, il se demande est-ce que c'est finalement par volonté expiatoire pour expier, je sais pas quoi. Là, essayons de voir pourquoi il se convertit. Je sais pas, il y a quelqu'un, il veut se convertir, il dit voilà,
depuis que je suis gosse, quand je passe devant une épicerie juive et que je vois des bislis, je me dis ah, oh, ça me parle quelque part, j'aimerais manger des bislis. Ouais.
Il y en a, j'en connais, c'est comme ça. Il dit oui, depuis que je suis gosse, ça m'a toujours parlé, le judaïsme.
J'ai toujours senti que c'était que j'avais à voir avec ça. Même mes parents sont pas juifs, mais j'ai toujours senti que c'était ma vie là-dedans. Et lui, pas du tout. Lui, rien, ça n'a rien à voir. Mais il n'était pas attiré par le judaïsme. Il y a quelqu'un, voilà, il veut se convertir. Oui, monsieur Christian, quelle est votre motivation? Bon, c'est vrai, mes parents sont catholiques, j'ai toujours aimé Israël. Quelle est votre motivation? Et chaque fois, dans un TGV, je vois un juif, je fais un croche-pied pour qu'il passe sur la voie, quand le train est à vitesse maximale. Et... quel est son problème de... Pourquoi il s'est converti, le mec?
Oui, alors, les trois pages, les trois dapim, analysent, en vérité, le Maharal a beaucoup travaillé. J'ai amené le livre, le Maharal analyse ce texte, Netzar Israël. Le Maharal analyse très longuement ces trois pages, dans plusieurs chapitres. Il dit que ces textes ne sont pas des reportages. Ces textes veulent nous analyser des problématiques. La problématique de la destruction, problématique des persécutions. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? C'est des textes qu'il faut prendre de manière analytique. Quand ils nous disent Gerd Sedek, c'est un converti authentique, ils sont en train de nous analyser des problématiques générales, qui transhistoriques. Certes, c'est arrivé. Certes, on voit par les prophètes que le prophète Jérémie, que c'était Nebuzradan, l'homme de main de Nabucodonosor, ça c'est indubitable, il a existé. Mais quand ils disent il y a eu 2 millions, ces chiffres ne sont pas des chiffres, anecdotiques, mais pour nous faire comprendre un phénomène. Mais quel phénomène? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ici, on voit que cet homme s'est converti. Même un enseignement qui dit, sache, c'est un Gerd Sedek, converti authentique. Même à la limite, si tu voulais analyser qu'est-ce que c'est une conversion, qu'est-ce que c'est le phénomène de Gerout, il y a ici quelque chose à comprendre. Je ne sais pas. Après, il y a quelqu'un qui dit, gentil, moi j'ai toujours aimé les juifs, j'ai toujours été attiré par le judaïsme. Non, dégage! C'est pas ça! Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi pas? On peut être gentil dans la vie, pas obligé d'être méchant. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous diriez?
La conscience, je sais pas, je pense à Paul de Tarse, enfin, c'est une fierté, comment c'était, qui chassait tous les juifs et qui se convertit au christianisme. Donc c'est un peu les mêmes choses. Parce que Paul, c'était Saül, ou je ne sais pas comment c'était, Simon.
Shaul.
Bon, ça me fait penser à ça, quoi. Il a passé son temps à tuer
les chrétiens,
et un jour, c'est devient le. Alors, je sais pas,
oui, pourquoi pas. Non, alors, pourquoi pas. Mais oui, mais alors, alors, on relira les évangiles. on relira. Je n'irai pas jusqu'à vous le promettre. mais alors, je ne sais pas comment c'est formulé là-bas. Là-bas, on dit qu'il était sur le chemin de Damas, il a eu une illumination. Mais là, on ne dit pas qu'il a eu une illumination, parce que je veux voir qu'est-ce qu'il a eu, cet homme-là, qu'est-ce qui lui est arrivé. Le texte nous dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Enfin, essayons de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, pourquoi...
Est-ce qu'il savait que le prophète, c'est un homme de Dieu? C'est peut-être ça aussi qu'on
savait. Oui, c'est sûr que oui.
Il a vu un miracle devant lui, il s'est dit donc, Dieu, il est présent, quelque part.
Alors, mais qu'est-ce qu'il veut? Il voit qu'il y a une injustice. Alors, le Maharal dit, dire qu'il y a du sang qui boue, c'est une parabole. Le Maharal dit, donc dans ce livre, Netzar Israël, c'est un livre extraordinaire. C'est un monument de la pensée juive, le Netzar Israël. Le Maharal dit dans Netzar Israël que le sang qui boue, c'est une parabole. Alors, il faut aussi comprendre qu'il a vu le sang qui boue, il a entendu que les Juifs ont tué un prophète de Dieu, et on voit, première réaction, pour le venger, il s'attaque au juge rabbinique. Ensuite, les jeunes gens, les jeunes filles, aussi des enfants qui étudient la Torah. Alors, ce texte on a déjà vu, n'est-ce pas, ensemble. Hein. Mais c'est un texte bizarre.
Un texte bizarre.
On a l'impression qu'il a voulu tester Dieu, en fait.
Alors, je vous propose la démarche suivante. Je propose la démarche suivante. Et c'est une démarche que c'est quelque chose. Peut-être ici, les sages nous mettent en exergue un des points centraux, qui n'est pas le seul point, mais un des points centraux de l'antisémitisme. C'est que les goyim savent, de manière consciente ou inconsciente, que le peuple juif, c'est le peuple élu. Ça, ils le savent. On voit dans n'importe quel journal, on voit dans un journal, il se passe quelque chose en Israël. On crache sur une fillette dans un autobus, c'est la une de tous les journaux. En Afrique, ils massacrent 150 personnes, c'est un entrefilet. Je veux dire, c'est invraisemblable. On crache à Béchevel, une petite fille de 8 ans, j'ai même pas le journal qui parle de ça, mais franchement, tous les journaux du monde entier en font une affaire d'État. Bon, d'accord, enfin, ils en font une affaire d'État. Et il y a le je sais pas où il y a eu des massacres, mais là, au Nigeria, au nord du Nigeria, il y a eu des massacres invraisemblables il y a 2-3 jours. Bon, il y a un article et on passe à autre chose.
Il y a même des massacres au Soudan, ils n'en parlent pas. Quoi.
Ouais,
pas
des... Non, mais le on... Donc, peu ou prou, il y a la perception que le peuple juif, et d'ailleurs, il arrive, lui, en tant que soldat de Nabucodonosor lui dit, conquiert Jérusalem, il arrive, il marche sur des œufs. Jérusalem, il y a le temple de Jérusalem, le temple. Il y a des miracles, il y a des prophètes. Nabucodonosor, il me donne un sacré travail, il a qu'à le faire lui-même. Il rechigne, il arrive, et il voit des juifs, c'est des salauds. Il dit, il y a Bernard Madoff. Non, mais je comprends pas, c'est ça le peuple de Dieu. Quoi? C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça le peuple élu. Il y a des salauds pareils. Mais lui, c'est un soldat. Un soldat, il... Si vous voulez, je sais pas... C'est un Prussien, des ordres, c'est des ordres. Dieu me demande quelque chose. Il dit, moi, j'ai pas le mérite d'être du peuple élu. Il y a quelqu'un, il est le peuple élu, c'est le chéri de Dieu, Dieu lui dit quelque chose, il le fait. Il y a un prophète, il le respecte. Quoi ? Et un prophète, il leur fait des remontrances, il le tue. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça le peuple de Dieu. Ça, c'est le... C'est le peuple de Dieu. Il y a... Non, c'est pas le peuple de Dieu. Il y a... C'est une imposture. C'est une imposture. Ou alors Dieu, il est pas bien. Il est pas bien. Ce Dieu, non, j'en veux pas. Je veux enlever ce faux. Je vois un juif. Je veux plus entendre parler du mot juif. Je veux plus entendre parler du mot juif. Il y a plus de juifs. Je veux plus entendre parler. C'est un faux historique. Le peuple juif, c'est un peuple, c'est à cause de lui qu'il y a tous les problèmes sur terre. C'est à cause de lui qu'il y a tous les problèmes. Il y a des problèmes, c'est à cause des juifs. C'est un faux historique. On nous a lavé le cerveau avec les juifs. Mais regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils tuent un prophète de Dieu. Le peuple élu. C'est pas le peuple élu. Ou s'il y a un Dieu comme ça,
Choisis un peuple comme ça. Je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Et il s'attaque à la spécificité du peuple juif. Il ne s'attaque pas, contrairement à ce qu'on pense, aux juifs assimilés. Il s'attaque aux juifs les plus juifs. Il s'attaque aux juifs les plus juifs, aux Sanhédrin, aux enfants qui étudient la Torah. Il s'attaque même aux enfants. Il s'attaque justement aux enfants. Je veux éradiquer, il y a un livre, on en a parlé à la Yeshiva, il y a un livre, c'est intéressant, j'ai rencontré un ami là, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, il m'a dit, ah, il y a un livre que j'ai lu, c'est le livre qui m'a le plus bouleversé ces dernières années. C'est le livre dont je veux vous parler. C'est Shaul Freelander. Il a écrit deux livres. Shaul Freelander, c'est un historien dont les parents ont été déportés, sont morts en déportation. Et après, c'était un orphelin, donc il a été dans des maisons d'accueil après la Seconde Guerre mondiale. Et il est devenu historien. Il a travaillé toute sa vie sur les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit livre sur livre là-dessus. Et là, depuis une dizaine d'années, il a sorti deux gros pavés, on pourrait dire. C'est la somme de tout son travail. C'est les années de persécution et les années d'extermination. Vous avez lu, Alain ? Vous avez regardé un peu ?
Je comprends. Le massacre des Juifs de Mal, non, c'est pas ça, c'est pas ça.
Peut-être c'est un autre livre de Freelander. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la chute du monde communiste et le mur de Berlin, en Allemagne de l'Est, en Russie communiste, il y a beaucoup de documents qui n'étaient pas, dont les historiens n'avaient pas accès, en particulier en Allemagne de l'Est. Et depuis donc 91, on pourrait dire, les historiens ont pu avoir accès à des documents qu'ils ne connaissaient pas. Et il y a des lettres d'Hitler que... Et ça, c'est nouveau. Enfin, la lettre n'est pas nouvelle, mais qu'on connaisse ces lettres, c'est nouveau. Que lorsque les Allemands ont conquis la Pologne, la consigne de Hitler est d'abord d'organiser que personne ne sorte du district de Lublin. Et c'était explicite pour Lublin, pour Hitler et Marchemont, que Lublin, c'était la région la plus religieuse. La Galicie du Sud, c'était la région la plus religieuse de Pologne. Il dit qu'il faut que personne n'échappe. Si quelqu'un échappe de cette région, on est foutu. Ils transmettront le judaïsme. Parce que longtemps, c'est vrai, longtemps, ça a été propagé. Et c'est juste aussi que les nazis s'attaquaient à tout juif, même juif converti au christianisme, à n'importe quoi. C'était la race. Mais il y avait malgré tout une conscience d'éradiquer les juifs. Ça, il y a des documents que Freelander ressorte dans le deuxième tome de son livre. Sur les années d'extermination. Et là, on voit dans ce passage que là, Nabuzradan, il s'attaque d'abord au meilleur. Pourquoi il s'attaque au meilleur? Il dit, c'est un faux. Nous, on nous parle du peuple juif. Les juifs. Mais les juifs, mais regardez qu'est-ce qu'ils font. Regardez, c'est ça le peuple élu. Parce que toute l'humanité se pose des questions. C'est quoi le sens de l'humanité? Il doit bien y avoir quelque chose. Tout le monde, juif ou non-juif, tout le monde se pose des questions. Alors, si un peuple C'est l'élu de Dieu. Bon, on veut savoir qui c'est Dieu. C'est ça, le peuple élu. Il tue des prophètes. Si un Dieu qui choisit un tel peuple, je veux pas ça. Et il éradique. Un moment, il dit, Zacharia, Zacharia, les meilleurs d'entre eux, je les ai détruits. Est-ce que tu veux que je les détruise tous? Et là, ça s'est arrêté. Le Maharal dit, le sang s'est arrêté. C'est pas que le sang s'est arrêté, d'ailleurs, le sang n'a jamais bouilli. Mais il a réalisé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a réalisé? J'aimerais que...
Peut-être quand même une différence entre ceux qui veulent détruire le judaïsme ou les juifs qui en sont porteurs et ceux qui le font et qui après se convertissent. Celui-là. C'est peut-être pas le même sens dans les deux cas.
Reprenez-le.
Quand tu reprenais tout à l'heure l'idée de Shaul Friedlander sur la Shoah, c'était Hitler, la guerre des civils. Ça, c'était une destruction pure et simple. Mais là, d'après ce que j'ai compris, parce que je me suis fait un petit peu expliquer mon retard, il s'est converti après.
D'accord, mais on ne sait pas pourquoi il s'est converti.
Comment?
On ne sait pas pourquoi il s'est converti.
Oui, mais la position n'est peut-être pas la même dans les deux cas.
Oui, mais le texte dit après que beaucoup de ceux qui se sont opposés le plus au peuple juif, de leurs descendants, soit eux, soit leurs descendants, se sont convertis. Donc c'est lié l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Cette histoire que Zacharia, il appelle Zacharia et il dit est-ce qu'il faut encore que j'en tue et ça s'arrête. Alors est-ce que ça veut dire que les premiers. Centaines de dizaines de milliers qui a tué.
Des millions même.
Oui, enfin, là, mais c'était avant l'histoire de. C'était toujours. Des millions, c'était toujours pour.
Il nous dit qu'il a tué des millions, et après on nous explique pourquoi.
D'accord. Et alors donc, les millions, les premiers millions qu'il a tués, Zacharia était. C'est-à-dire, comme il ne lui demandait pas, il ne disait pas qu'il n'était pas contre. Il était d'accord, Zacharia, ce qu'il tue tous ces millions de juifs d'après cette histoire.
Alors, regardez, moi je propose, regardez.
Il a peut-être compris qu'il ne pourrait pas tous les tuer.
Alors, regardez, moi je propose la chose suivante. Il tue. Bon, c'est un soldat. Faites l'amour, pas la guerre. Faites la guerre, pas l'amour. Je veux dire, c'est un soldat. C'est un homme de guerre. C'est un soldat. Ok. À un moment, il dit, j'ai tué les meilleurs d'entre eux. Est-ce que tu veux que je tue tous? Alors, c'est intéressant. Comment c'est ton prénom, excuse-moi? David, oui, tu m'as dit la dernière fois. Toi, tu dis, est-ce qu'il a perçu qu'il n'arriverait pas? Je propose. Bon, ça se discute, hein. Ce texte, je l'ai vu dans les derniers mois, j'ai présenté ce texte à différents groupes. Quand j'étais à Bnei Brak, il y a 2-3 mois, j'ai vu ce texte avec des amis là-bas à Bnei Brak. Pour voir comment ils aborderaient ce texte. Quand j'étais aussi à Montréal, j'abordais ce texte pour voir un peu comment... Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il dit, Zacharia, Zacharia, les meilleurs d'entre eux, je les ai tués. Est-ce que tu veux que je les tue tous? Le sang s'est arrêté. Je propose que dans la vie, on agit, on vit. on fait des choses. On a été éduqué pour les faire, on fait des choses. Mais rarement, on perçoit qu'en vérité, c'est moi qui agis. Rarement, on perçoit que c'est moi qui agis. À un moment, il tue. C'est normal pour un soldat de tuer, mais à un moment, il dit, est-ce que tu veux que je les tue tous? Et à la limite, il a perçu qu'il pourrait aller jusqu'au bout. Au contraire de ce que tu disais, intéressant. Il a perçu, à la limite, qu'il pourrait aller jusqu'au bout. Et là, il a réalisé que c'est lui qui le fait. Que là, il est libre. Que Dieu, finalement, le laisse libre. Dieu laisse l'homme libre. Il n'est pas manipulé. Quand il réalise ça, il se convertit. Bon, vous avez tous lu Un chemin à Jérusalem de Hannah Arendt, etc. Que la banalité, essai sur la banalité du mal, que il dit, mais moi je suis un ingénieur, hein, un chemin. Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire et j'essaie de le faire au mieux, de manière la plus efficace. J'avais pas de marge de manœuvre. Et alors, quand on lit ça, on est outré. Mais à la limite, je sais pas, moi j'en sais rien, qu'est-ce qu'il pensait le mec. Mais peut-être là, c'est ça ce que, ici, le Talmud est en train de nous dire. Un moment, il a perçu. Jusque-là, c'est normal. Un soldat, il a un problème, il y a une injustice. En réalité, le concept même de peuple juif est une injustice pour lui. Le concept même de peuple juif est une injustice. Donc c'est un homme, on pourrait dire, il massacre, mais c'est un homme moral. Parce que paradoxalement, dans sa perception de lui-même, c'est au nom d'une certaine morale, d'une certaine justice. Mais la justice, c'est un concept, la justice, c'est une abstraction, c'est un Dieu justice. Mais à un moment, il se rend compte que c'est lui qui est en train de tuer. C'est lui qui est en train de faire. Que Dieu ne le manipule pas. Que ce qu'il fait, c'est lui qui est en train de le faire. Et que s'il voulait le faire, Dieu ne le forcerait pas, ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Alors il dit, mais c'est moi. Et le texte, il dit, « Be'ota sha'a » À ce moment-là, « Irer tshuva bedaate » Il a eu tshuva. C'est quoi tshuva? Tshuva, le terme tshuva, c'est un retour. C'est-à-dire, il a eu un retour à l'intérieur de lui-même. Il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'est perçu. Il y a un retour de ce qu'il fait, un feedback de ce qu'il fait par rapport à lui-même. Il a dit, mais attends, je ne comprends pas. Mais... Donc, là, tuer une personne de manière injuste, le châtiment n'a pas de limite. Moi, j'ai tué. Il réalise que c'est lui qui a tué. Jusque-là, c'est au nom des principes de justice qu'il tue. Il tue pas, je tue pas. Je suis un soldat. J'applique une justice. Mais à un moment, il dit non, c'est moi. Et là, il s'est converti. Ah, alors, très important. Monsieur, j'ai oublié votre prénom. Comment vous êtes? Ce que vous dites, c'est un... Alors, voilà. On pourrait dire, c'est très important. Est-ce que c'est de la culpabilité ou est-ce que c'est autre chose?
Il a quand même
tué
des millions.
Comment?
La culpabilité ou le...
Ou autre chose. Culpabilité ou autre chose.
Et ça va pas jusqu'au... Au raisonnement qui l'amène à se convertir. Ça, c'est très important.
Pour
pourquoi il franchit le pas et il se convertit.
Oui, c'est pas clair, parce qu'il a réalisé ça. Mais se convertir, on se convertit parce qu'on aime bien le couscous boulette, ou on aime bien le gefilte fish. Non, mais pour se convertir, il faut une certaine sensibilité commune avec le peuple juif. La manière, il n'a rien de commun. C'est, pourquoi il se convertit, ce type-là?
Je trouve que ça, c'est beaucoup plus...
De bureau, il passe à victime, comme ça. Il est dans le camp des victimes.
Bon, c'est la blague qu'on disait à l'école. Pour, 5 minutes avant de se suicider, Hitler, il s'est converti pour qu'il y ait un juif de moi. Mais... non, mais où mais comment dire... pourquoi victime, vous dites?
Non, il passe du camp de bourreau qu'il est au camp des victimes qu'il a tué.
Mais puisque c'est lui le chef des bourreaux, ça va s'arrêter là.
Oui, mais quand il réalise,
pourquoi c'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte qu'il tuait?
Non, qu'il se rende compte, on pourrait dire, qu'il se rende compte que finalement, si vous voulez. Jusque-là, à la limite, il ne se rendait pas compte. C'était machinal. C'était une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Il y a énormément de gens qui se sont penchés là-dessus, sur comment on peut être bourreau. Je vous épargne tous les livres que vous avez pu lire. Mais comment on peut être bourreau? J'en sais rien. Mais ce texte, finalement, prophétique, analytique, est en train de poser la problématique. Il n'est pas la seule, c'est un des aspects. Alors, qu'il se rende compte à un moment qu'il n'est pas une machine, mais qu'il est quelqu'un qui fait, c'est lui qui fait, et qu'on va lui demander des comptes. C'est bien. Il a réalisé ça. Et finalement, c'est moi qui appuie sur la gâchette. Jusque-là, c'est une machine de guerre. Mais à un moment, c'est moi. Dieu, finalement, me laisserait. Il dit, mais tu veux que j'ai tué tous? Il voit que oui. Il voit que c'est possible. Ils peuvent tous les tuer. Ah, merde alors. Mais Dieu, arrête! Empêche-moi! Non, non, Dieu n'empêche pas.
Si, il empêche.
Et
où?
Non, il arrête.
Alors, le Maharal dit non. C'est sa prise de conscience qui a fait que le sens s'arrête. Cette prise de conscience, c'est ça. C'est cette prise de conscience qui. C'est ça ce qui s'appelle le sens s'arrête. La tchouva, c'est sa tchouva, lui. C'est sa tchouva, c'est lui, justement. Il perçoit qu'il n'est pas une machine. Alors moi, je propose, on dispose, je propose que c'est ça le peuple juif. Que...
Mais s'il savait qu'il
c'est ça le peuple juif. C'est le peuple juif, c'est pas un peuple de petits soldats de Dieu. C'est un peuple, il y a des Roshahim, il y a des Tzadikim, il y a des... C'est-à-dire que qu'est-ce qui est véhiculé par le peuple juif? C'est ça les mitzvot. Quand quelqu'un se convertit, vous savez, il y a les libéraux, ils sont énervés. Je ne comprends pas pourquoi, pour devenir juif, se convertir, il faut devenir respectueux des commandements de la Torah. Non, aimer Israël, avoir participé du destin historique du peuple juif, d'accord. Mais devenir pieux pour autant, parce qu'on veut se convertir, ça c'est encore les orthodoxes qui ont des idées, n'importe quoi. Alors, c'est quoi les mitzvot? C'est quoi Matan Torah? C'est Kabbalat mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est quoi les mitzvot? Comme Rambam dit dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres, le concept de mitzvah signifie que je suis libre. Si Dieu m'enjoint de faire quelque chose ou de ne pas faire certaines choses, c'est que je suis libre de faire ou de ne pas faire. C'est ça ce que ça signifie. C'est ça Matan Torah. Donc, ça veut dire que ce qui est véhiculé dans l'âme Israël, c'est qu'en vérité, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Que c'est l'homme qui agit. Alors, il y en a, c'est des salauds, il y en a, c'est pas des salauds. C'est pas programmé, c'est justement, on n'est pas programmé. Comment?
Il y a un libre arbitre.
Oui, mais ça, c'est colossal. Ça, c'est, C'est ça ce que signifie Kabbalat Mitzvot.
Je crois que dans Matan Torah, il y a toutes les lois après sur l'esclavage, tout ça, juste après.
Alors
Et donc, ça pose forcément la question de choisir entre être un esclave ou ne pas être un esclave.
Oui, ce que tu veux dire, ce que tu veux dire, c'est que juste après Matan Torah, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui étaient sortis de la maison d'esclavage, à la limite, ça leur est possible qu'ils redeviennent. C'est ça, c'est pas maintenant... ce que tu dis, c'est que on reçoit la Torah, juste après Parashat Yétro, Parashat Mishpatim, les premières lois... Première loi, si un juif se vend esclave à un autre juif. C'est une histoire. Au contraire, on reçoit la Torah, maintenant on va être libre pour toujours. Libre forever.
Et on accepte quand même de servir un maître.
Ouais, mais...
Oui, mais ça veut dire, c'est possible de se rétrograder, tu veux dire. C'est possible de
C'est possible d'être un esclave.
Voilà, c'est possible. Alors, si vous voulez, ce texte, alors, c'est une lecture que je propose, hein. C'est pas... on peut analyser peut-être les choses autrement. J'ai lancé les questions à plusieurs Talmidei Chachamim qui m'expliquent, qui me donnent d'autres explications. Ah, c'était super. Je sais pas si vous connaissez un peu Bnei Brak. Brak, je pense, c'est une ville énormément de yeshivot, de kolélim. Bon, c'est des amis qui m'ont organisé un cours là-bas. Cette étude, je l'ai faite là-bas avec des gens qui étudient la Torah depuis des dizaines d'années, toute la journée. Ça, c'était passionnant. Et j'aurais lancé dans la question, expliquez-moi ce texte. Et pourquoi il s'est converti? On ne comprend pas. Or, le Maharal nous dit que ce texte est là pour nous analyser une problématique. Il décortique un problème. Je propose de dire que il a réalisé que c'est lui qui agit. Et c'est ça qu'il a compris de qu'est-ce que c'est alors le peuple juif. La question... J'ai appelé, si vous voulez, le titre de ce cours. Il y a un conflit Orient-Occident, et nous, on est un peu au milieu, on ne sait pas trop où on est. On est un peu au milieu, même Moyen-Orient, on est juste même géographiquement au milieu. On est autant des Orientaux que des Occidentaux. Moi, je dis souvent à mes élèves, que si on aborde le Talmud qu'avec un regard occidental, on ne voit que 50% du Talmud. Parce que le Talmud, c'est presque plus oriental qu'occidental. Comment expliquer ça?
C'est plus tourné vers la vie.
Comment?
C'est plus tourné vers la vie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Je vous donne un exemple. Oui. C'est vrai, il y en a qui ont voulu donner beaucoup de lectures, de passages du Talmud, philosophiques, comme Lévinas ou d'autres, hein, qui sont très très bien. Mais c'est un aspect des choses. C'est un aspect. Je vous lis un truc. Là, je suis dans le métro, je lis un truc sur l'Inde. Bon, intéressant ou pas intéressant, peu importe. Je vous lis une phrase qui m'aide un petit peu à comprendre.
secondes. Il pose la question, comment ça se fait que l'Inde a été dominée pendant 350 ans par les Moghols, c'est-à-dire par des musulmans. Seconde, c'est dit de manière très 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 bien. Bon, je retrouve un peu la phrase. Mais,
Il dit comme ça.
L'Inde a été dominée pendant 350 ans par les Moghols, qui sont des musulmans. Pendant 200 ans, par les Anglais, qui sont anglicans. Et encore aujourd'hui, l'hindouisme est extrêmement vivace. Comment ça se fait? Et c'est un hindou qui a écrit ce petit bouquin. Il dit pourquoi? Parce que l'hindouisme est d'abord... L'hindouisme, c'est d'abord un mode de vie. Et un mode de vie, c'est ce que vous dites. C'est quelque chose de vivant, intégré dans le quotidien. Et de la même manière, dans la Torah, il y a un côté intellectuel extraordinairement puissant, mais ce côté intellectuel extrêmement puissant est porté par un mode de vie extrêmement quotidien et simple. Et simple. Et ça, il y a une osmose entre l'Orient et l'Occident. On est comme ça, il y a une union entre l'Orient et l'Occident. Et dans ce passage, on voit ici, nos maîtres essaient d'analyser qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif. Parce que ce type-là, qui déteste les juifs, il ne peut pas les encadrer. C'est vraiment un antisémite. Mais c'est plus qu'un antisémite. Il y a des antisémites, mais là, c'est pas un antisémite. Il supporte pas le peuple juif. Et à un moment, il se convertit. Alors, comme dit Moshe, on dirait par culpabilité. Ça n'a pas l'air d'être. Le texte dirait un mot là-dessus. On dirait le fait qu'il réalise que c'est lui. Il dit, mais est-ce qu'il faut que j'ai tué tous? Alors, et là, il s'arrête. Peut-être, on dirait, qu'il a perçu que oui, il pouvait le faire. Ce que Dieu le laisse faire. En vérité, il n'était pas l'instrument de la vengeance de Dieu. Avant, il se disait, je suis l'instrument d'une vengeance. Non, il dit non, c'est moi qui fais. Je suis libre de faire. Et il devient juif. Je propose de dire, c'est ça qu'il a perçu, c'est ça qui est véhiculé par le peuple juif. Que l'homme est libre. C'est ça Torah en mitzvot. C'est ça Torah en mitzvot.
L'homme est vivant.
L'homme est libre. L'homme est libre. Que c'est ça qui est véhiculé. C'est... Alors maintenant, j'aimerais rajouter encore un élément. Ça, on a déjà vu en cours. Jusque-là, c'est du remake. Maintenant, on va rajouter quelque chose.
C'est la prise de conscience que l'homme est libre.
Ce qui est véhiculé par Torah en mitzvot, par le fait même qu'il y ait une mitzvah. Une mitzvah, ça veut dire, quand moi je mange un repas, je fais Birkat Amazon, c'est moi qui fais Birkat Amazon. Je fais Shema Israël, c'est moi qui fais Shema Israël. Je mets une mezouza, c'est moi qui mets une mezouza. Maïmonide dit dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres, dire qu'il y a une mitzvah, ça veut dire que c'est moi qui agis, que Dieu ne me manipule pas. C'est moi qui agis, alors... pour le meilleur et pour le pire. C'est pas la Torah, c'est pas un aller saint pour le paradis et 70 vierges. C'est l'homme. Voilà. C'est l'homme qui agit. C'est-à-dire que je me crois donner la Torah aux mitzvot pour agir, pour que l'homme.
Mais ça limite notre action, parce qu'il faut faire les mitzvot, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'autres. certaines choses, pour faire limite, c'est ça qui est.
On peut ne pas les faire.
On peut ne pas les faire, mais si on fait quelque chose, c'est ça. Ah. C'est, ça limite un peu la liberté, non?
Alors, on rajoute, d'accord. On va voir, est-ce que ça apporte un élément à votre question, Alain? On va voir la suite. Ça, on a vu ensemble déjà. Hein, on a vu ça il y a quelques temps. Comment? Oui, évidemment. Alors, maintenant, le texte continue. Que là où il y a la flèche, Tana, on enseigne, Naaman, Gertoshav, Aya. Naaman, c'est l'exemple même du Gertoshav. Regardez, je ne veux pas alourdir avec d'autres notions. Ce n'est pas notre sujet. C'est important si on veut faire un travail 100%. Mais bon, je ne veux pas alourdir. Naaman, Gertoshav. Nabuzradan, Gertzedekaya. Nabuzradan, sache, c'est le converti Tzedek. Tzedek, ça veut dire droit. Donc, par rapport à votre remarque sur laquelle, spontanément, on dirait, il a une telle culpabilité que maintenant, il veut faire partie du peuple des victimes. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui. Non. Culpabilité avec victime. Non, non. Non, mais je rajoute. Je fais la culpabilité.
Moi, j'ai une suite là-dessus.
Voilà, culpabilité. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on prend, a priori, c'est ce qu'on comprend, c'est-à-dire par mortification, par... voilà. Et le documentaire qui était passé à la télé il y a X mois, c'était flottant, cette idée. C'était impossible que finalement quelqu'un fasse ça par dimension de droiture. Or, ici, l'enseignement sache, il y a une démarche authentique, là. Pas de culpabilité. C'est un enseignement, sache, il faut que tu le saches. Et le texte continue. Mais Bnei Banav chez Aman, l'Amdou Torah Bnei Brak. Des descendants de Aman enseignaient la Torah à Bnei Brak. Mais Bnei Banav chez Sisra, l'Amdou Tinokot Birushalayim. Des descendants de Sisra ont enseigné aux enfants la Torah à Jérusalem. Des Bilebanav, Shel Sanril, Lamnu Torah Berabim, des descendants de Sennacherib, empereur assyrien, ont enseigné la Torah Berabim à tout le peuple juif. Et qui sait, Shamaï Abavdi. Le Maharal Netzar Israël relève que cet enseignement, je vous lis la phrase du Maharal, qui est vraiment bouleversante. C'est un de mes passages préférés, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il rigole. Mais... Il dit, le Maharal, Yesh lecha ledaat, il faut que tu saches. Non mais c'est... Le Maharal, 16e siècle, hein. C'est le 16e siècle. Il a vécu presque centenaire tout le 16e siècle. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Yesh lecha ledaat, il faut que tu saches. Sha'reshaim, kasher hem muflagim berishut, veyesh lahem kohar gadol meod, kemo shaya le'ilu shezachar, yefshar shelo yeh metsuav kohar shelahem el kohar elyon, kohar Hashem yitbarach. Rak shaya ze etzlam betuma. Il faut que tu saches que des rechaïm, des impies, quand ils sont extraordinairement impies, qu'ils ont une énergie qui sort de l'ordinaire dans leur impiété, comme avaient ces gens, c'est impossible qu'il n'y ait pas une dimension de kedusha, de sainteté dans leur démarche. que eux, cette sainteté, ils l'ont mise à mauvais escient, ils la transmettent chez leurs enfants, elle se transforme, pas seulement elle se transforme, mais aval et tselabanim, kacher nitgayru, quand ils se sont convertis, nitsraf et nitsdakem et nitlaben, cette potentialité qui était chez eux extraordinairement impie, cette potentialité s'épure, se raffine, le fikar ayu benem gdolim de l'abim Torah berabim. C'est pourquoi, chez les descendants, il y a eu le cœur même de l'enseignement de la Torah. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est dans, en général, quand on voit, mais c'est pas possible, c'est des salauds, mais c'est pas des hommes, c'est des masses, c'est des monstres, c'est pas possible. Pour nos maîtres, non, il y a quelque chose, ils cherchent quelque chose. Ils se fourvoient, c'est des salauds, mais ils cherchent quelque chose, c'est pas nul. Comment un juif peut écrire ça par rapport à nos plus grands ennemis? Ça, c'est vraiment, on appelle chachamim. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Il paraît, il y a un ami, il m'a envoyé un SMS l'autre jour. Il paraît qu'il y a une émission à la télé qui était horrible sur la déportation des Juifs de Hongrie. Je vous lis son SMS. Donc c'est à deux jours. Je regarde une émission sur l'extermination des Juifs de Hongrie. Eh bien, les froumes ont raison de ne pas avoir la télé. Il me dit, c'est pas supportable. C'est des choses, c'est des monstres. C'est vrai. Et nos maîtres abordent la question. Ils abordent la question. Alors maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce que ce qui s'est passé chez Nebuzradan a à voir à terme avec l'étude de la Torah et la transmission de la Torah? Ça, c'est quand même bizarre. Tu pourrais dire, ok, première étape, c'est des... ils ont compris quelque chose, ok. Dans le mal, dans la catastrophe, ils ont compris quelque chose. Ok. Gertzedek. Mais nos chachamim vont plus loin. Ils vont plus loin. Ils disent que ce qu'ils ont mis en mouvement dans la piété, dans le rachat, dans le éminemment condamnable, mais à terme, il y a ce qui est mis en mouvement là a à voir avec la transmission même de la Torah. Alors là, quand il est d'accord, alors expliquez à vos jeunes amis.
Ouh là là. Non, mais là, je vais rentrer dans quelque chose.
Succinctement.
D'abord, alors, très rapidement, alors. Là, quand il tuait, il ne tirait pas. Il n'appuyait pas sur la gâchette. Il n'en avait pas. C'était un corps à corps. C'était le sang qui coulait, qui bouillait. C'était la chair qui s'était roulée. Dans des situations comme ça, il y a fort à parier que ce qu'on peut dire que ça atteint la Teshuvah, ça prend une dimension de prise de conscience de ce qu'il est en train de faire et surtout à qui et à quoi il est en train de faire quelque chose. Donc il y a une prise de conscience de ce qu'il est en train de détruire. Et à ce moment-là, il y a un basculement. C'est qu'il y a une... Il y a comme une énergie qui passe comme ça, Et au début, j'avais envie de dire, quand j'ai fait la réflexion, ceux qui tuent simplement qui font un holocauste, et puis ceux qui tuent qui font un holocauste, et puis qui se convertit, c'est pas pareil. Parce que quand il a une prise de conscience de ce qu'il est en train de faire et il le fait, et qu'est-ce que ça représente, il veut en devenir, il veut en être. C'est pas la même chose que ceux qui détruisent purement et simplement.
Oui, ils réalisent que c'est des gens qui existent.
Plus que ça. Voilà. Qui sont, tu as dit tout à l'heure, élus. Le peuple élu. Je me demande pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il transporte avec lui. Et dans cette effusion de sang physique, parce que c'est pas un jeu vidéo à l'époque, hein. On n'appuie pas sur des boutons ni sur des gâchettes. Hein. Et là, il y a une communication qui s'est faite.
Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la transmission de Torah? Tu as dit, ça, ah, je suis d'accord.
Oui, mais ça alors, a à voir.
Fais-nous participer de, de ta flamme.
Ça, je pense que ça a à voir.
La Torah est chère.
Ça a à voir parce que ça a quelque chose, justement. D'une énergie vitale, quand on dit ça se tourner vers l'Orient et vers l'Occident, l'Occident c'est la mort. Et l'Orient c'est la vie.
Attends, c'est enregistré, hein.
Non,
c'est important ça. Je pense qu'il est conscience qui fait qu'un peu plus simple. C'est peut-être ça, et c'est peut-être pour ça qu'il a changé d'avis.
Mais il a compris
qu'elle était... Oui, j'entends. C'est que jusque-là, les choses étaient une abstraction. Lui, c'est une machine de guerre. Et eux, ils n'existent pas. C'est un peuple qu'il faut éliminer. Mais ce que tu dis, à un moment, ils réalisent, non. Ils existent, ils sont là. Ils représentent quelque chose. Oui, ils signifient quelque chose.
Oui.
Ça, oui. Mais en quoi ça va avec la transmission
de non, mais justement, alors... Moi, je pense que quand on peut percevoir une raison majeure pour franchir un tel pas, parce que c'est un mouvement personnel énorme qu'il a eu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transmet d'une manière involontaire. Il y a une communication qui est sous-jacente, qui est occultée, n'est pas dite et qui passe.
Oui. Alors regardez, moi je propose, hein, j'exclus pas ce que je dis, je propose que aussi une spécificité de notre tradition. C'est que un exemple. Quand on étudie la Torah, on n'étudie pas seul. On étudie ce qu'on appelle un chavruta, à deux. C'est-à-dire, on ne cherche pas à avoir raison. À deux, si, on cherche, on se bagarre, justement. Quand on étudie un chavruta, on se bagarre pour avoir raison.
Mais c'est pour mieux comprendre.
Comment ?
Pour
mieux comprendre, mais on se bagarre, ça veut dire... C'est on se donne un moyen que quelqu'un nous apporte la contradiction. Et toujours l'étude de la Torah, c'est comme ça. On voit un texte, le but, souvent, excuse-moi l'expression, c'est pas de comprendre un texte, c'est de voir combien on n'a pas compris ce texte. Non, ça veut dire, c'est là où on commence à étudier. Quelqu'un, c'est parce que c'est quand on voit qu'on n'a pas compris qu'une démarche veut faire mouvement. Que ces gens, c'est les gens qui ont refusé. Les gens qui refusent. Être d'accord, c'est. J'ai rien fait quand je suis d'accord. J'embrasse la foi de Moïse. On s'en fout, dégage.
C'est-à-dire, tu es d'accord. Tu n'as rien fait, tu es d'accord. C'est quelqu'un, il a dit, quelqu'un, il adhère. C'est les mollusques qui adhèrent. Et les mollusques, c'est pas cachère, je veux dire. C'est... Non, c'est des adhères, c'est un escargot, je veux dire. C'est rien, je veux dire. C'est pas vivant. Là, tu parles l'Orient et l'Occident, qui est vivant, qui est pas vivant, j'en sais rien. Mais là, le c'est le fait de ne pas être d'accord, ça demande plus d'énergie. C'est une pulsion de vie. Il y a une pulsion de vie. Quand, je sais pas, on est, disons, une équipe, on travaille ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Dire, je ne sais pas, moi, avec le patron, le chef de projet, dire que ça ne va pas, c'est dangereux. C'est, tu risques de te faire mal voir, ou je ne sais pas. Comment ?
Il y a des manières de dire. Oui, c'est de la forme qui change. C'est ça la liberté. Le fond.
Oui, mais souvent, dire quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est pas d'accord, c'est commence une liberté. Et en vérité, le but de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est pas de transmettre comme un magnétophone, mais faire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle soit vivante. Mais pour qu'elle soit vivante, il faut à la limite la contester, il faut lui rentrer dans le chou, il faut la décortiquer, il faut l'exploser. Une fois que tu l'as explosé, quelque part dans tous les états, on dit quelqu'un, il ne peut pas enseigner la halakha s'il ne peut pas prouver que la chose, elle est à la fois cachère, à la fois pas cachère. La Gemara dit que un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui peut prouver cette chose, je peux te prouver que c'est pas cachère, et se prouver que c'est cachère.
Ouais, ça me fait penser comme un avocat. Un avocat peut défendre une thèse comme
l'autre. L'avocat, il est hypocrite, a priori, non ? L'avocat, il est talentueux, c'est de la casuistique.
Tu veux dire qu'il peut défendre
une thèse comme son contraire.
Un coupable et le.
Ouais, on apprend ça à l'école, on apprend. Vous défendez cette thèse, hein, très bien, défendez la thèse contraire.
Mais il y croit à chaque fois ou pas ? À chaque fois, il croit que
sa
c'est
vrai. Sa conviction,
mais ça veut dire Anaël. C'est votre prénom, Anaël. Hein.
Oui.
Ce que dit Anaël, c'est que. C'est que là, l'avocat, c'est une figure de style et ça dépend aussi le montant du chèque qui va avec. Mais là, c'est quelqu'un qui, avec persuasion va te prouver une chose et son contraire. Avec que la vérité peut être dans une chose et dans son contraire. Quand on étudie, mes maîtres m'ont enseigné. Quand on étudie dans la Gemara et qu'il y a une discussion, expliquer un des avis, ce n'est pas de l'étude, il faut expliquer les deux avis. Quand Maïmonide et Rashi sont contre, enfin, sont deux, il faut expliquer et Rashi et Maïmonide, et Maïmonide et Rashi. Et ça, le but de ça, c'est vrai, se casser la tête, c'est bien, mais le but de ça, ce n'est pas ça. Le but de ça, c'est que ça soit vivant. C'est que ça soit une parole vivante et qui puisse se transmettre. Et ça, c'est des gens qui ont mis un mouvement de refus, d'objection. Et ça, il y a une force de sainteté là-dedans. C'est comme quelqu'un qui dit quelque chose ne va pas, et ben il ouvre une possibilité. On se rendait pas compte des choses. Des fois, des choses, elles se figent, elles deviennent. Elles étaient vivantes à un moment, ça se sclérose, et quelqu'un, il va te relever une contradiction. Et souvent, c'est insupportable. Mais quelqu'un qui risque ça, c'est une bouffée de vie. Mais être d'accord, c'est, je dirais, être d'accord.
C'est... Il est d'accord. Salaud.
Non, je suis pas d'accord.
Surtout pas. C'est le but de survie. Et eux, ils ont ravivé, ils ont fait que cette Torah, elle puisse se transmettre. C'est le cœur même de la transmission. Ça, c'est vraiment, je dirais, je pense là quelque chose de très, très, très ça c'est juif. Je me suis dit, comment trouver vraiment un truc particulier. C'est pour ça, chez nous, on parle peu de la foi ou des choses comme ça, parce que ça, c'est des abstractions. Ouais, bon, Maïmonide, il a lancé les 13 articles de foi. Et je pense que c'était dans une société qui était complètement dans un style musulman, où les juifs étaient englobés dans la culture du moment, comme, je ne sais pas, aujourd'hui, on est dans la culture. Si tu n'as pas le BlackBerry de iPhone, on ne parle pas. Donc, on ne t'adresse pas la parole. Donc, à l'époque, c'était...
C'est sacrément réducteur, ça.
Non, mais je sais que c'est ridicule.
Je vais pas dire réducteur.
Non, mais je ne sais pas comment aujourd'hui, il faudrait que je réfléchisse, dire un truc réducteur, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Mais dans une société qui était une société musulmane de l'époque du XIIe siècle, où les gens étaient extrêmement investis dans la théologie, bon, il fallait pondre quelque chose de théologique juif. Alors il a pondu les 13 articles de foi. Mais c'est pas de notre cru, parce que l'article de la foi, bon, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est tout. C'est pas du... T'es d'accord, bon. C'est une croyance. Peut-être c'est nécessaire, mais c'est pas le cœur même. Le cœur, c'est l'étude. L'étude, c'est d'abord, c'est l'opposition.
On nous passionne souvent sur la foi quand on va dans des cours de Torah. Quand on va dans des cours de Torah, souvent on nous passionne sur la foi. Quand on nous dit, ouais,
c'est nécessaire.
Si tu fais, si t'as pas tel niveau, ça veut dire que t'es pas assez croyant, t'as pas assez foi ou des choses comme ça. Quoi.
Ok, bien, merci. Merci. Alors, j'ai proposé que la semaine prochaine, on commence une étude continue dans le livre de Shmuel, verset après verset. Pas au début de Shmuel, parce que les 8 premiers chapitres, il y a la prière de Hana, c'est très spéculatif, je dirais. C'est très spéculatif. Et ça devient très, je dirais, concret quand le roi Saül émerge. Quand Shaoul émerge. Ah, ça, c'est vraiment, c'est sublime, c'est magnifique, avec le commentaire de Rachid. Bien, au revoir.